Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir spécialement aussi à Joël, qui nous fait le plaisir à nouveau cette semaine de nous présenter un chapitre, le chapitre 10 des Romains. Nous avons beaucoup apprécié l'enseignement de la semaine dernière. C'est encore un petit peu frais dans notre tête et c'est tant mieux, je pense, pour lui et pour nous. Et donc, je voulais vous poser, chers auditeurs, chères auditrices, deux questions. La première question, c'est est-ce que vous avez pu réfléchir à la dernière présentation, à la dernière partie, pardon, de la présentation de Joël et réfléchir à une des applications? Je pense que c'est quelque chose d'important quand j'entends la parole de Dieu, quand j'entends un enseignement, eh bien, j'essaye de choisir une des applications et d'y réfléchir. Et je vous encourage à faire de même. Ma deuxième question, elle est assortie d'une suggestion. C'est le chapitre 10. Peut-être vous le connaissez par cœur, vous avez bien de la chance, moi pas. Mais peut-être que vous l'avez aussi lu, et c'est une bonne chose, c'est une suggestion, c'est avant le cours, lire le chapitre que nous allons étudier. Et alors peut-être, en deuxième lieu aussi, est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas? Et quand l'orateur, Joël en l'occurrence, va parler de cela, vous avez deux possibilités. Soit vous trouvez la réponse dans ce qui est dit, soit vous posez la question par le chat. Alors sans plus attendre, je remercie Joël et lui passe la parole. Et soyons attentifs et profitons. Je fais un mot de prière et je lui passe la parole. Merci Dieu et Père parce que nous avons ce soir ta parole devant nous, ta parole vivante, efficace, aussi pour nous transformer, pour être appliquée à nos vies, où que nous soyons sur la planète. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge et notre condition. Oui, Dieu et Père, tu connais nos soucis, tu sais nos préoccupations, mais tu sais aussi intervenir, tu sais aussi y répondre. Merci parce que tu nous as sauvés par le sang de Jésus-Christ et nous en sommes infiniment reconnaissants et nous t'adorons. Bonne soirée, bonne écoute.
Merci beaucoup Antoine. Donc bonsoir à chacune et à chacun. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour examiner ensemble le chapitre 10 de l'épître de Paul aux Romains. Alors je suis conscient que lundi dernier, je suis allé un peu vite et que j'ai même un petit peu dépassé le quota de temps qu'il m'était alloué, mais ayant un peu à remettre les choses dans leur contexte de l'entièreté de l'épître. Je pense que vous voudrez bien m'en tenir excusé, d'autant plus que le chapitre 9, avec ses 33 versets, était un plat assez copieux. Le chapitre 10 est à la fois plus court et, je pense, aussi un petit peu plus simple. Et c'est pourquoi je vous propose de procéder de la manière suivante ce soir. Nous reprendrons les mêmes éléments que ceux que nous avons vus lundi dernier, à savoir replacer dans le contexte, alors non plus forcément le contexte de l'ensemble de l'épître, puisque ça, nous l'avons déjà fait. Mais regardez plus précisément comment peuvent s'articuler les chapitres 9 à 11 de notre lettre. Puis, après la lecture du texte, et nous regarderons quelques difficultés textuelles avant de passer à ce qui sera encore une fois le plat de résistance, je le pense, la phase d'interprétation. Je profiterai sans doute du temps, moi je l'espère, disponible pour opérer deux généralisations. En prenant un peu de recul par rapport au chapitre 9 et 10, et essayer de voir dans notre vie chrétienne comment nous pouvons comprendre le sens de la loi pour le croyant, et puis ce sujet éminemment délicat de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine. Et puis nous terminerons par quelques applications. J'ai mis la portée actuelle du chapitre 10, c'est quelque peu prétentieux, ce serait quelques éléments, de quelques bribes de la portée actuelle de ce chapitre. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder le contexte de ces chapitres 9 à 11. Comme nous l'avions indiqué lundi dernier, il me semble qu'il s'agit d'une portion qui est clairement définie de l'épître, puisque elle traite d'un thème commun, la crédibilité de la parole de Dieu donnée dans l'Ancien Testament et du plan de salut de Dieu pour Israël et les nations. Nous avions vu l'importance de ce verset 6a du chapitre 9, que la parole de Dieu, finalement, n'est pas tombée. La parole de Dieu n'est pas devenue caduque, suivant les traductions. Et donc, il était très important pour Paul d'aborder ce sujet-là. Un autre point qui, au-delà des thèmes, unifie cette section des chapitres 9 à 11, c'est l'abondance des citations de l'Ancien Testament. Je l'avais déjà indiqué, 4% du texte des épîtres de Paul, 31% des citations de l'Ancien Testament. De plus, la fréquence de certains mots dans cette section est bien supérieure à ce que nous trouvons dans le reste de l'épître aux Romains. C'est toujours intéressant, je trouve, de faire un peu une analyse lexicale de la fréquence des mots pour permettre de se rendre compte comment l'auteur inspiré a découpé son texte. Et puis, ça, c'est déjà apparu un petit peu au chapitre 9, et je pense que nous le reverrons également au chapitre 10, puis au chapitre 11, Paul change un petit peu de style. Alors, pas fondamentalement, puisqu'il a déjà eu ce style un peu conversation quand il évoquer certaines objections qui pourraient lui être avancées et qu'il y répondait par ces jamais de la vie ou qu'ainsi n'advienne, suivant la traduction utilisée. Mais là, la densité de ces interpellations augmente, me semble-t-il. Que dirons-nous donc? Alors, diras-tu comment peut-il faire des reproches? Et puis, si je prends notre texte d'aujourd'hui, c'est mais je demande, voilà. Donc, on a un style un peu plus conversation qui peut-être aussi reflète l'émotion qui est celle de Paul face à l'urgence que constitue pour lui le salut des Juifs et leur éloignement et leur endurcissement. Et puis le dernier élément qui permet de définir aussi clairement cette unité des chapitres 9 à 11, c'est que de la même manière que les chapitres 1 à 8 se terminaient par cette glorieuse affirmation du chapitre 8, verset 39, eh bien la fin du chapitre 11 marque une rupture nette puisque nous avons cette doxologie, hein, donc discours de gloire qui embrasse finalement non seulement les chapitres 9 à 11, mais tout ce que Paul a développé depuis le début de sa lettre, après l'introduction qu'il a faite, cette doxologie magnifique des versets 33 à 36 du chapitre 11, avant que, à la fin de la partie pratique de sa lettre, au chapitre 16, il donne encore une autre doxologie. On voit bien que Paul, sans doute par ce balancement des doxologies, nous savons qu'il y en a deux qui sont insérées dans son développement du chapitre 1 puis du chapitre 9, nous l'avions vu la dernière fois, mais les deux massives, si je puis dire, se trouvent à la fin du chapitre 11, à la fin du chapitre 16, eh bien ça marque quand même, me semble-t-il, les divisions de la lettre. Alors, je rappelle quelques titres donnés à toute la section. Nous avions vu lundi dernier trois approches possibles du découpage de la lettre et des titres qu'on pourrait lui donner. Donc là, nous regardons plutôt l'aspect dispensation, le fait que la justice de Dieu s'inscrit dans l'histoire, et ce que Dieu a fait ou fera pour Israël et les nations. Je vous propose donc pour ces chapitres 9 à 11 une division en trois qui, me semble-t-il, peut suivre globalement la division en chapitres que nous avons dans nos Bibles. Alors, je l'avais évoqué rapidement lundi dernier, la place particulière des quatre derniers versets du chapitre 9 est discutée. Faut-il les relier au chapitre 9 ou servent-ils d'introduction au propos du chapitre 10? Les deux options se tiennent tout à fait. Il me semble que le fait que Paul, à trois reprises, se fasse personnel dans ces chapitres pourrait privilégier légèrement le fait de laisser ces quatre derniers versets du chapitre 9, effectivement, dans le chapitre 9. Et donc, ce que je vous propose, c'est un découpage en trois suivi donc de cette doxologie des quatre derniers versets du chapitre 11. Tout d'abord, chapitre 1, verset 9, verset 1, nous avions vu cette angoisse de Paul, hein, je dis la vérité en crise, je ne mens pas. Et finalement, cette angoisse, elle ressurgit dans la seconde introduction en jeu, le souhait de mon cœur et ma demande à Dieu pour eux. Chapitre 10, verset 1, et au chapitre 11, il va commencer par donner son propre exemple de personnes qui font partie de ce petit reste d'Israélites qui n'a pas suivi l'incrédulité générale. Donc, je suis moi-même Israélite. Au risque de la simplification abusive, la temporalité aussi de ces trois chapitres me semble permettre de les découper de cette manière, puisque le chapitre 9 se tourne plutôt vers le passé avec cette souveraineté de Dieu dans son choix. Le chapitre 10 que nous avons devant nous va traiter de la situation présente du temps de Paul, mais qui souvent continue. Et puis dans le chapitre 11, Paul va ouvrir des perspectives futures, jusque, on pourrait presque dire jusqu'en l'éternité. Par rapport à Israël, maintenant, ces trois chapitres abordent le sujet central que nous avons évoqué il y a un instant, mais sous trois angles différents. Le chapitre 9 va plutôt s'intéresser au choix souverain d'Israël dans le passé. Chapitre 10, au rejet du salut par Israël dans le présent. Et le chapitre 11 va évoquer le rétablissement futur d'Israël. On retrouve passé, présent, futur. Et par rapport à la justice de Dieu, eh bien, qui est un thème central de cette lettre de Paul Romain, le chapitre 9 évoque ce sujet de la justice de Dieu en relation avec la souveraineté de Dieu, le chapitre 10 en relation cette fois-ci avec la responsabilité de l'homme, d'où le thème théologique que nous évoquerons tout à l'heure, et le chapitre 11, la justice de Dieu finalement dans tout son plan de salut, un petit peu la réconciliation, me semble-t-il, de ces deux aspects. Donc, voilà donc ce qui me semble être une prise un petit peu de recul sur ces trois chapitres pour en voir à la fois l'unité et aussi les articulations du développement. J'en viens maintenant à la lecture du texte du chapitre 10 et comme la dernière fois, je vous propose une lecture de ce texte qui est largement basé sur la NBS, la Souvent 21, avec petite modification marginale. Frères et sœurs, le souhait de mon cœur et ma demande à Dieu pour eux, c'est pour leur salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. En effet, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que la justice soit à tout croyant. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi. L'être humain qui fera ces choses vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui relève de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais publiquement en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on croit en vue de la justice, et c'est avec la bouche qu'on reconnaît publiquement en vue du salut. L'Écriture dit en effet, quiconque croit en lui ne sera pas couvert de honte. Il n'y a pas de distinction en effet entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-il s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, Seigneur, qui a cru ce dont on nous a entendu parler? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole du Christ. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je demande, Israël ne l'a-t-il pas su? Premier, Moïse dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation, par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Et Ésaïe pousse l'audace jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, constamment j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et contestataire. Jusqu'ici, la fin de la lecture du texte. Comme pour le chapitre 9, je vous propose de nous intéresser maintenant à la microstructure du chapitre 10, et il me semble que c'est une planche particulièrement importante parce que c'est une planche qui nous permet de voir comment Paul articule son propos et qui prépare l'interprétation à laquelle nous allons nous livrer dans quelques minutes. Et donc, il est très important, me semble-t-il, de bien voir quels sont les points importants et comment Paul fait s'enchaîner les idées les unes après les autres, avant de rentrer, bien entendu, dans un détail un peu plus exégétique de chacune de ces sous-parties. Je les ai regroupés sous le vocable du salut. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est un des mots-clés de notre chapitre. À la lecture, vous aurez peut-être constaté que salut, sauvé, eh bien, revient à 4 reprises dans notre chapitre, et que même si le mot ou le verbe afférent ne se retrouve pas forcément explicitement, c'est en tout cas cette annonce du salut qui est sous-jacente, me semble-t-il, à l'ensemble de ce texte. Tout d'abord, dans les 4 premiers versets, nous avons le salut souhaité par Paul pour les Juifs propres justes, et avec cette demande à Dieu pour eux, c'est pour leur salut. Paul évoque ce zèle mal dirigé des Juifs et la volonté des Juifs d'établir leur propre justice. C'est quelque chose qu'il avait déjà touché à la fin du chapitre 9, puisque il avait pu dire des non-Juifs qui ne poursuivaient pas la justice ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Donc là, on voit ce glissement que Paul opère, passer de la loi de justice à la justice qui viendrait de la loi. Et il termine ce paragraphe par cette affirmation massive que la loi prend sa fin en Christ. Donc, Paul concentre son propos initialement sur ces Juifs, propres justes, mais ce qu'il met en contraste dans les versets qui suivent, c'est que finalement, le salut en Jésus le Seigneur est offert à tous et accessible à tous. Et nous avons ce verset qui est sans doute un des versets les plus importants de notre lecture de ce soir, cette citation de Joël 2,28, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, Paul va faire un contraste en s'appuyant sur des citations. Nous avions déjà vu ce procédé lundi dernier dans le chapitre 9, nous le retrouvons ici dans ce chapitre 10. Paul va parler d'abord de la justice qui vient de la loi, qui est basé sur le faire, et à cet appui, il va prendre une première citation de l'Ancien Testament, texte du livre du Lévitique. Ensuite, il va mettre cela en contraste avec le mais adversatif du verset 6, avec la justice qui relève de la foi, et là c'est plus faire, c'est écouter la parole proclamée à proximité, et il va s'appuyer sur une deuxième citation, celle du livre du Deutéronome, en fait, sur 2 citations, nous y reviendrons, le chapitre 9 à peine, et puis surtout le chapitre 30. Et il va en tirer une conséquence immédiate, c'est que la justice et le salut obtenus sont obtenus en Jésus quand il est reconnu comme Seigneur ressuscité. Et cela, ouvert à tous sans distinction. Et c'est par cela qu'il conclut, me semble-t-il, cette deuxième partie de ce chapitre, puisque sans distinction, c'est ni juif ni grec, tous et quiconque. Ces 3 aspects que nous trouvons dans ces versets 11 à 13. Mais après avoir ouvert, si je puis dire, le propos sur où on trouve la vraie justice et avoir affirmé qu'elle est ouverte à tous, il va revenir en fait à son thème principal, qui est, oui, mais comment se fait-il que Israël ait refusé ce salut proclamé, dont ces Écritures mêmes témoignaient, soit les Deutéronome, et puis surtout les 2 citations qu'il fait d'Ésaïe et de Joël. Et c'est pour cela que il va, par une chaîne dans les versets 14 et 15, affirmer que la bonne nouvelle du salut a bel et bien été proclamée. Et pour cela, il va s'appuyer sur une citation de Ésaïe 52. Donc, la bonne nouvelle a bien été proclamée, mais Israël a désobéi à la bonne nouvelle de la parole du Christ. Et là, il va s'appuyer sur une autre citation du chapitre d'après d'Ésaïe 53. Alors, il répond à l'objection qui pourrait être levée, mais finalement, peut-être que Israël n'a pas entendu cette proclamation, elle est allée ailleurs. Non, 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 non. Paul affirme qu'elle a bien été entendue partout. Et deuxième objection, oui, peut-être que Israël a entendu, mais peut-être qu'il n'a pas compris. Ah non, 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 regardez, Israël a tout à fait compris le salut, puisque d'autres l'ont accepté, et Paul va multiplier les citations, puisqu'il va en prendre une de Moïse de Deutéronome 32, et puis deux de Ésaïe. Voilà. Donc là, j'espère que nous voyons maintenant un peu plus clairement comment s'articulent les différentes parties de notre chapitre, et puis nous allons rentrer dans l'interprétation, mais auparavant, je voudrais relever quelques petites difficultés textuelles de notre chapitre 10. Elles ne sont pas dramatiques, mais ça vaut la peine d'en dire rapidement quelques mots. Tout d'abord, le mot fin. Christ est la fin de la loi pour que la justice soit à tout croyant. Vous remarquerez, si vous utilisez différentes traductions, que le texte est rendu différemment. Tob, la fin de la loi, c'est Christ pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. Darby, NEG, NBS, second 21 sont assez proches. La semeur nous dit, Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Et la Nouvelle Français Courant remplace fin par but. Le but de la loi de Moïse, c'est de mener au Christ pour que tous ceux qui mettent leur foi en lui soient reconnus justes. Les paroles de vie, NIV, sont assez proches de cette façon d'interpréter le fameux mot telos, qui recouvre deux sens, puisque le telos, c'est à la fois la fin, la cessation ou la dernière étape, c'est aussi le but, l'intention ou l'accomplissement. Et en particulier, en m'appuyant sur l'étude soigneuse de Douglas Moo, il me semble qu'on peut voir les deux sens derrière ce mot fin. C'est-à-dire que Christ est à la fois la fin, la cessation de la loi, dans le sens où quand l'accomplissement, le pléroma du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi. Et que la loi s'est arrêtée, la loi et les prophètes jusqu'à Jean. Et puis la fin, dans le sens où Christ est aussi le but, l'intention, l'accomplissement. Christ est comme le but même de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi, nous dit la même épître au chapitre 13 et au verset 10. Et Christ était l'incarnation même de cet amour. Donc retenir un petit peu ces deux sens qui ne sont pas contradictoires, mais me semble-t-il hautement complémentaires. Deuxième difficulté, la parole du Christ, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend par la parole du Christ. Alors, vous aurez remarqué que, il y a deux leçons différentes. Le texte le plus reconnu, et je vous ai mis les traductions, qui le retiennent, c'est la parole du Christ. Le texte majoritaire pencherait plutôt pour la parole de Dieu. La première leçon semble à retenir. Elle a l'appui de manuscrits les plus anciens, et puis c'est ce qu'on appelle lectio difficilior potior, c'est-à-dire que il faut prendre plutôt la lecture la plus difficile. Alors, comme la parole de Dieu se trouve pleine de foi et parole du Christ est plus rare, eh bien dans ce genre d'arbitrage à faire, on incline plutôt vers la lecture la moins fréquente, et donc il est probable qu'un copiste qui se voulait bien intentionner et remplacer la parole du Christ par l'expression plus courante de la parole de Dieu. Et puis, ça me semble aussi en pleine cohérence avec le contexte, les Juifs doivent recevoir la parole du Christ parce qu'ils acceptaient bien la parole de Dieu, l'Ancien Testament, mais ce dont ils avaient besoin d'être convaincus, c'était que c'était la parole du Christ qu'ils avaient à recevoir. Mais quelle parole du Christ? Et là, nous sommes face aux deux types de génitifs, hein, soit objectif, soit subjectif, soit la parole qui a pour objet le Christ, soit la parole qui est donnée par le Christ. Et me semble-t-il, là encore, une fois, nous pouvons retenir les deux options. C'est à la fois la parole qui concerne le Christ, et c'est la parole aussi qu'il nous a donnée à travers les évangiles, et ensuite, quand il a parlé par ses apôtres dans les épîtres, dans le reste du Nouveau Testament. Je vais revenir encore une fois sur le sujet que nous avions déjà touché lundi dernier sur les citations de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que là, nous nous trouvons en face d'une citation très curieuse, tirée du psaume 19. Quand Paul soulève l'objection possible, mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Paul cite deux vers du psaume 19. Mais ça pose quand même un vrai, vrai gros problème. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un premier problème sur le contexte. Le psaume 19, quand nous le lisons sur ses premiers versets, c'est le témoignage des œuvres de Dieu en création. Tandis que en Romains 10, Paul vise la proclamation des héros de l'Évangile, cette proclamation de la parole du Christ. Alors, ça me semble intéressant de toucher ce point-là parce que vous aurez remarqué que Paul n'introduit pas cette citation comme il le fait d'autres fois en disant Ésaïe dit ou la parole dit ou l'écriture dit, etc. Il enchaîne. Au contraire, leur voix a retenti par toute la terre, etc. Et il faut bien voir que dans un esprit saturé de connaissances de l'Ancien Testament comme était celui de Paul, les mots qui lui venaient naturellement à l'esprit, c'était des mots empruntés parfois hors contexte, mais qui lui fournissaient un moyen de communication. Des mots de l'Ancien Testament qui étaient juste une façon de parler. Alors j'ai essayé de trouver un petit correspondant et vous voyez, par exemple, on pourrait dire de quelqu'un qui se retrouve sur la paille parce qu'il n'a pas économisé. Oh, ce garçon n'a jamais su mettre de l'argent de côté et il s'est trouvé fort dépourvu quand la bise fut venue. Alors, il n'est pas question d'un vent qui aurait fait s'envoler tous les billets de ce garçon. C'est juste que tout Français qui a appris à l'école les fables de La Fontaine reconnaît la cigale et la fourmi et on s'exprime dans ces termes-là, vous voyez. Et c'est un petit peu ce que fait Paul, en fait. Donc, parfois, il faut ne pas se prendre la tête, passez-moi l'expression, en cherchant des connexions ou des relations un petit peu capillotractées dans des citations. C'est juste que les auteurs du Nouveau Testament s'expriment avec un langage qui, implicitement, est celui de l'Ancien Testament. Alors, ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième problème, c'est sur l'hyperbole. Leur voix retentit par toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Waouh! 57, il n'est pas sûr que la parole soit allée jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais on voit que tant Paul que ses opposants juifs utilisaient ce genre d'hyperbole. Colossiens verset 23, Paul dit, l'évangile a été proclamé à toute créature sous le ciel. Et en acte 17, verset 6, ceux qui veulent virer Paul et Silas disent, ces gens ont bouleversé la terre habitée, ils sont aussi venus ici. Terre habitée. Donc la terre habitée, c'était une façon de désigner l'Empire romain, où l'évangile était déjà bien répandu. Et où il y avait suffisamment de circulation et de voyage pour que, eh bien, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, ou comme il le dit aux Colossiens, eh bien, l'évangile ait pu retentir dans des endroits même où Paul lui-même n'était pas allé physiquement. Et puis, on peut penser aussi que dans toute créature sous le ciel, ça peut être aussi toute catégorie de créature plutôt que tout individu. Dans le sens de l'ouverture de l'évangile, à la fois à ceux qui étaient esclaves, à ceux qui étaient hommes libres, à ceux qui étaient d'origine juive ou d'origine païenne, etc. Donc, pas trop non plus. Et puis, il y a aussi cette hyperbole de style méditerranéen que j'évoquais un petit peu aussi une fois dernière. Et le dernier point, c'est les ils. Certaines traductions supplémentent le il en mettant les Israélites ou les Juifs, etc. Et c'est vrai que dans ce chapitre, Paul commence sans désigner qui que ce soit. Le souhait de mon cœur et ma demande à Dieu pour eux, c'est pour leur salut. Et pourtant, si on prend l'antécédent pluriel immédiat, c'est les non-juifs au chapitre 9 et au verset 30, puisqu'après il parle d'Israël. Mais on voit que derrière les ils, comment invoqueraient-ils, n'ont-ils pas entendu? Eh bien, c'est en fait les juifs qui est la préoccupation centrale de l'esprit de Paul. Et on voit à quel point aussi Paul passe de façon fluide du singulier Israël au pluriel les Israélites ou les Juifs. Et alors, au verset 19 de notre chapitre, le basculement est clair, Israël ne l'a-t-il pas su? Néanmoins, je pense que nous nous tromperions en limitant la portée de ce chapitre 10 aux seuls Juifs. Quand Paul dit au chapitre 10, verset 12, il n'y a pas de distinction en effet entre juif et grec, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il nous autorise par là même à prendre les éléments de ce chapitre et à les appliquer à une situation où il n'y a pas de juif, par exemple. Parce que la généralisation en est autorisée par cette mention même. Voilà donc quatre rapides observations sur quelques difficultés textuelles, pas majeures au demeurant dans notre chapitre. Et puis venons-en maintenant à la phase d'interprétation de notre texte. Donc c'est là où nous allons concentrer l'essentiel de notre propos. Et nous allons commencer par les quatre premiers versets. Nous allons reprendre peu ou prou le découpage que je vous avais proposé quand nous avons regardé l'entièreté de ce chapitre pour regarder un peu plus en détail de quoi il en retourne. Tout d'abord, Paul adresse à ses frères, mentionne à ses frères et sœurs auxquels il s'adresse, donc aux chrétiens de Rome, le souhait de mon cœur et ma demande à Dieu pour eux. Donc Paul a à la fois un souhait et une prière. Et je trouve cela très beau. La manière dont Paul a ce souhait fond de son cœur du salut de ses frères juifs, de ses coreligionnaires. Mais ce souhait-là, qu'est-ce qu'il en fait? Il le garde à l'intérieur, ça macère chez lui? Non, non, non. Il le transforme en demande, en prière. Et donc, c'est aussi un encouragement, je fais une petite parenthèse d'application avant l'heure, hein, mais c'est aussi un grand encouragement, me semble-t-il, pour nous, quand nous avons quelque chose comme ça, un souhait, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et bien finalement de l'exposer, hein, comme Paul, le même Paul nous y encouragera en Philippiens 4, de l'exposer à Dieu pour que sa paix puisse venir dans notre cœur. Parce que sinon, c'est toujours difficile quand on garde un souhait rentré, et qu'on ne peut pas le reposer vers notre Dieu, qui saura à la fois nous donner cette paix dans notre cœur et aussi agir selon sa souveraineté. Paul est obligé aussi d'évoquer le zèle mal dirigé des Juifs. Il rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. Alors on pourrait dire qu'il en savait quelque chose, puisque, comme il l'évoque aux Philippiens, du point de vue du zèle, il était persécuteur de l'Église. Il était plus zélé que les gens de sa génération, dit-il ailleurs. Donc, ce zèle très fort de Paul, eh bien, avant sa conversion, était pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. On voit des gens qui ont beaucoup de zèle pour beaucoup de causes, hein, mais je dirais quelque part, c'est encore plus triste. Quand il y a un zèle pour le seul vrai Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, hein, mais que ce zèle est tellement mal dirigé que finalement, il en vient à contrecarrer les plans de Dieu, d'où parfois l'extrême dureté de Paul envers ses coreligionnaires juifs. Je pense à la fin de 1 Thessaloniciens 2. Et pourquoi? Parce que les Juifs voulaient établir leur propre justice. Et ils voulaient établir leur propre justice par la loi, par la loi. Ça, c'est ce que nous avions vu à la fin du chapitre 9. Et cela s'est contredit par l'exemple même d'Abraham avant la loi. Paul avait déjà traité ce sujet quelques années auparavant dans sa lettre aux Galates, et quand il fait ce raisonnement que 430 ans avant la loi, eh bien, il y avait eu la promesse à Abraham et qu'Abraham avait été justifié. Et donc, non pas par la loi, mais par la foi qu'il avait mise dans la promesse de Dieu. Et donc, Paul reproche aux Juifs à la fois leur ignorance et leur désobéissance. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et là, ce n'est pas une ignorance dans le sens où ils ne savent pas, c'est ignorance dans le sens où je mets de côté. Oh, j'ignore ce truc-là. L'ignorance a aussi ce sens-là. Et donc, cette ignorance, elle est volontaire et coupable. Et elle les conduit à la désobéissance. On voit bien qu'il y a deux vraiment types d'ignorance. L'ignorance parce qu'on ne sait pas, et dans ces cas-là, Dieu est prêt à nous donner la connaissance, et ignorance parce qu'on remet de côté ou on ne veut pas en entendre parler d'un certain sujet. Et Paul annonce ensuite que le Christ est la fin de la loi. Alors, j'avais déjà évoquer les deux sens du mot télos, à la fois fin et finalité. Je reviendrai sur ce sens de la fin de la loi en Christ dans la généralisation sur quelle est la position du croyant par rapport à la loi tout à l'heure. Mais je reviens sur ces deux sens de télos que nous avons vus tout à l'heure et que nous proposons de retenir ici. C'est que toute la loi finalement pointe vers le Christ. Et c'est dans ce sens-là que Jésus, dans le sermon sur la montagne, peut dire en Matthieu 5, 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, dans le sens où la loi parlait de sacrifice, il allait être le vrai sacrifice. La loi parlait d'un autel, il allait être cet autel. La loi parlait d'un sacrificateur, il allait être ce sacrificateur. Et que finalement, en sa personne, eh bien, pointait toute la loi, jusqu'au point où même la malédiction de la loi, il allait la prendre sur lui, comme Paul l'évoque dans ce même chapitre 3 de Galates. Et puis, en Christ aussi, la loi s'arrête et devient caduque. Jésus, toujours lui, dit en Luc 16, 16 que la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Ça s'est arrêté. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Nous trouvons donc un certain nombre de textes qui nous permettent de comprendre que il y a eu à la fois une arrivée, si je puis dire, de la loi en Jésus-Christ, mais aussi une terminaison, une fin, parce que Jésus-Christ met de côté la loi. Nous passons à la deuxième sous-partie donc de notre chapitre, hein, les versets 5 à 13, et puis que nous regarderons en deux morceaux. Donc le salut en Jésus, le Seigneur, offert à tous et accessible. Donc tout d'abord, Paul va prendre cette première citation qu'il va extraire du livre de Lévitique. Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, l'être humain qui fera ces choses vivra par elle. Alors, nous allons revenir là-dessus sur la généralisation, mais qu'il me soit permis d'ores et déjà d'insister que quand nous avons cette affirmation, hein, l'être humain qui fait ces choses vivra par elle, eh bien, c'est théoriquement vrai. Mais il faut bien voir qu'il y a une différence, me semble-t-il, importante. Une différence qualitative entre ce que la loi pouvait promettre, certes de façon très théorique, mais ce que nous promet la justice selon la foi, hein. Je pense à ce que Jésus pouvait répondre au jeune homme riche qui s'approchait et qui lui disait: quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Et donc Jésus lui répond en lui citant quelques commandements du Décalogue, et puis à la fin: et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si le jeune homme riche avait fait tout ça, y compris ce que Jésus gentiment ne lui cite pas du Décalogue, tu ne convoiteras pas, parce que là je pense qu'il aurait eu mauvaise grâce de dire qu'il avait gardé ça dès sa jeunesse, eh bien il aurait eu une vie, mais sur une base légale humaine. Et la justice que pouvait octroyer la loi, si jamais elle avait pu être gardée, ce qui est au moins théoriquement, hein, on est dans spéculation, là, parce qu'on sait bien que ça n'a jamais été possible, eh bien, ça aurait été une justice purement humaine. Ça n'aurait pas été la justice de Dieu, dans le sens d'une justice imputée de qualité divine. Ça aurait été une justice de qualité humaine. Et pareil pour la vie. La vie aurait été une vie de, non pas de qualité, vie éternelle, qui est la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ, Jean 7, 17, verset 3, mais ça aurait été juste un prolongement de vie sur terre. Et donc la justice qui vient de la loi, c'est le faire. Par contre, la justice qui relève de la foi, c'est écouter la parole proclamée à proximité. Et nous avons ce contraste qui, à mon avis, est volontaire, quand Paul dit: Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, mais voici comment parle la justice qui relève de la foi, parce que la lettre tue, pourra-t-il dire aux Corinthiens. Donc il y a ce contraste. Et alors, nous avons cette citation de Deutéronome 30, avec d'abord un petit bout, ne dis pas dans ton cœur, cette situation de Deutéronome 30, qui est bien appropriée. Pourquoi elle est très bien appropriée? Parce que, en fait, le Deutéronome 30, c'est le dernier chapitre de la loi. Si vous prenez la loi de Moïse, eh bien, après, dans les chapitres 31-34 du Deutéronome, c'est l'intronisation de Josué, c'est le cantique de Moïse, c'est prophéties sur, et puis sa mort. Voilà. Mais la loi en tant que telle s'arrête au chapitre 30. Donc Paul va jusqu'à la fin de la loi pour montrer que ce dernier chapitre de la loi, eh bien, est finalement une bonne porte vers cette justice selon la foi dont il veut parler. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre même, on voit un accent qui est mis sur la circoncision du cœur. Ah, c'est intéressant. Parce que rappelons-nous, au chapitre 2, Paul avait parlé de cette circoncision du cœur. J'en avais dit un mot, ce vrai juif. Le vrai juif, selon Romains 2, ce n'est pas celui qui est circoncis parce qu'il est un descendant physique d'Abraham, c'est celui qui a circoncis son cœur. Et Deutéronome 30, verset 6, Après avoir annoncé que toutes les malédictions des chapitres précédents, eh ben, elles auront lieu parce que le cœur n'est pas circoncis, eh bien, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta semence pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Et c'est un chapitre qui mentionne beaucoup cette vie. Mais déjà, on voit en germe le fait que cette vie ne peut venir que d'une circoncision du cœur, que d'un amour de Dieu, qui elle lui-même ne vient qu'une circoncision du cœur, et que c'est Dieu qui doit l'opérer. L'homme en est lui-même incapable. Alors il n'y a pas de place pour un argument spécieux qui pourrait être le salut est trop compliqué ou trop lointain. Ah, pas du tout. Jésus a tout accompli. Il a déjà tout accompli par sa mort et sa résurrection. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre les c'est-à-dire. Donc ça, c'était une façon habituelle de la part des rabbins juifs, qu'on trouve d'ailleurs dans la littérature juive, pour introduire une interprétation de l'Ancien Testament. Non, non, regardez, c'est pas la peine de monter aux cieux ou de descendre dans l'abîme, parce que finalement, Jésus-Christ a déjà fait tout ça. Il est déjà mort et ressuscité. Et donc on voit que quand Paul commence sa citation en disant « Ne dis pas dans ton cœur » Deutéronome verset 4, eh bien là on avait cette fierté orgueilleuse d'Israël qui disait à son cœur « Finalement, voilà. » Et non, non, pas du tout. Il n'y a pas de raison d'être fier. Et la proximité de Jésus qui est à la fois descendu du ciel et puis remonté de la mort, eh bien elle est encore plus grande que la loi puisque c'est pas simplement une parole que Dieu a prononcée, c'est qu'il est venu en parole de Dieu. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Et désormais, la loi est bien écrite dans les cœurs. Et donc, on se retrouve avec un thème de Jérémie 31, versets 31 à 34, avec cette nouvelle alliance qui est très proche de ce qu'annonçait déjà l'Éternel dans le dernier chapitre de la loi. C'est magnifique de voir cet enchaînement, à quel point il est cohérent. Je termine avant la pause sur cette section et puis nous regarderons la dernière section après avoir fait quelques minutes de pause. Le salut en Jésus le Seigneur est donc offert à tous et accessible et le salut et la justice sont obtenus en Jésus qui est reconnu comme Seigneur ressuscité. Et donc la citation texto de Deutéronome 30 parlait de la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et Paul va reprendre ces deux expressions, bouche et cœur, de Deutéronome 30, sous la forme d'un chiasme, au verset 9, la bouche et le cœur, et au verset 10, le cœur et la bouche. Donc on voit que dans ces versets, qui sont vraiment des versets très importants, hein, les versets 9 et 10 sont vraiment des versets très importants, que le salut implique nécessairement de reconnaître la personne de Jésus. Hein. Si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et le salut implique nécessairement de reconnaître aussi l'œuvre de Jésus. Tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, qu'il me soit permis quand même d'insister un tout petit peu sur ces deux points parce qu'ils sont quand même tellement, tellement importants. C'est que Jésus le Seigneur, c'est quoi? C'est le Dieu de l'Ancien Testament, puisque la traduction en grec substituée au tétragramme sacré Yahvé, le terme de Seigneur. Donc, reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est reconnaître aussi son autorité, puisque le Seigneur, c'était le Kurios, c'était l'empereur. Et donc, dire Jésus est Seigneur, ça voulait dire Jésus est Dieu. Et Jésus a toute autorité, ce n'est pas l'empereur qui a l'autorité. Et puis sur l'œuvre de Jésus, certes, il y a sa mort, mais surtout sa résurrection. Et on voit à quel point Paul, dans toutes ses lettres, en Corinthiens 15 en premier lieu, bien entendu, insiste sur le fait que la résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de toute la foi chrétienne. Et donc, par le parallélisme propre à la pensée hébraïque, nous pouvons mettre en parallèle ce salut avec la justice de Dieu imputée. Et ce salut est ouvert à tous sans distinction. Donc, il n'y a pas de distinction de catégorie, que ce soit entre juifs et grecs, et pas de distinction de personne, quiconque ou tous. Donc, on voit à quel point Paul est attentif pour dire, mais il n'est personne qui soit exclu du salut. Je cite vaguement le 147 des hymnes et cantiques, mais il n'est personne qui ne veuille être écarté du salut. sur ce fécond de salut du monde, le sang de Christ est répandu. Et donc, ce salut est ouvert à qui? À celui qui invoque. À invoquer, là aussi, nous avons deux sens complémentaires. Dans le, on pourrait prendre le psaume 116, où on a quatre fois le terme invoquer dans ces deux sens. Hein. C'est à la fois appeler au secours, ben oui, j'invoque le Seigneur parce que je suis perdu dans mes péchés devant Dieu. Et invoquer aussi au sens de louer, parce que finalement, l'objectif final de notre salut, c'est d'être à la louange de la gloire, de la grâce de Dieu, de louer sa grâce glorieuse en Jésus-Christ. Donc, c'est très intéressant de voir que ce terme invoqué, que Paul emprunte bien entendu au prophète Joël, eh bien, est présent. Et donc, il y a ces deux citations. Il y en a une qui avait déjà été donnée, hein, quiconque croit en lui ne sera pas couvert de honte. Couvert de honte, dans le sens vétérotestamentaire, c'est bien être condamné lors du jugement. Et la deuxième citation, ben, elle est très, très importante pour tout le Nouveau Testament, pour toute la Nouvelle Alliance, oserais-je dire, puisque c'est une des bases de la Nouvelle Alliance depuis la Pentecôte. On voit qu'en Acte 2, 21, Pierre termine son discours en disant, ben, voilà, cette citation de Joël, elle s'accomplit aujourd'hui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul, au début de l'Épître aux Corinthiens, ceux qui invoquent le Seigneur et leur Seigneur est le nôtre. Et il est aussi, j'aimerais aussi insister sur cette expression, hein, ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ah, cette richesse de Dieu dans le salut. C'est un thème paulinien majeur. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il va commencer sa doxologie de la fin du chapitre 11, aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Et je pense à ce texte d'Éphésiens 2, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous aime. Donc, je vous propose de faire la pause en restant sur cette pensée de cette richesse de Dieu dans le salut, ouvert à tous ceux qui l'invoquent.
Oui, bonsoir à tous. Alors Joël, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors il y a d'abord une première question sur la souveraineté de notre Dieu. Est-ce que Dieu que nous, ne connaissait pas le refus du salut de son peuple choisi? Que serait-il pour récupérer Israël?
Alors, je vois que Monsieur Techno KL5 pose beaucoup de questions, mais en plus, il me fait un bon teasing pour la seconde partie. Donc, je l'encourage à rester connecté, puisque nous allons aborder le sujet de la souveraineté de Dieu, le sujet de la cohérence avec de la loi et de la grâce. Donc, quelles seraient les conséquences des Juifs qui sont morts sous la loi? Eh bien, je dirais que, comme le dit Paul ailleurs, le juste vivra de foi. Donc, les justes qui sont morts sous le régime de la loi, ceux qui avaient mis foi dans les promesses de Dieu, eh bien, sont sauvés. Ceux qui ont eu un méchant cœur d'incrédulité, pour paraphraser l'Épître aux Hébreux, sont perdus. Et par quoi pouvons-nous voir la circoncision d'un cœur? Alors là, c'est tout le sujet des preuves du salut, hein, puisque circoncision du cœur, c'est pas quelque chose que nous pouvons voir visiblement, mais il y a tous ces fruits du salut dont il est question dans de nombreux textes du Nouveau Testament et qui permettent d'avoir une assurance raisonnable, si je puis dire, sur le fait que on connaît l'arbre à son fruit et que quand le fruit est bon, eh bien ça veut dire que l'arbre est bon aussi. Alors, qui descendra dans
Si.
l'abîme? Ouais. Qui descendra dans l'abîme? L'abîme est ce séjour des morts ou l'enfer? Le Seigneur est-il vraiment descendu dans l'enfer? Cette confusion entre le séjour des morts, le Shéol, l'enfer, veuillez nous éclairer sur ce point. Alors, l'enfer, alors ça c'est un grand sujet. C'est que dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y avait pas une vision extrêmement claire de l'état de la personne après sa mort et que le Shéol revêtait un sens un peu général de séjour des morts. Alors, parfois avec une connotation plus négative, mais il appartient au Nouveau Testament de préciser les choses. En particulier, on pense à la pseudo-parabole de la fin de Luc 16 et puis quelques autres textes dans les Épîtres sur le fait que quand quelqu'un meurt, eh bien, suivant qu'il meurt en ayant cru, eh bien, il y a un séjour de son âme auprès de Jésus-Christ, et sinon, il commence à ressentir ce qui sera ce qui va continuer en étant ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire la seconde mort, hein, dont il est question en Apocalypse 20. Donc là, est-ce que, alors ça c'est un grand sujet sur lequel les théologiens ne sont pas tous unanimes, loin s'en faut, est-ce que Jésus est descendu en enfer, dans l'enfer, dans le séjour des morts, comme il est question parfois dans certains credos. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer déjà sur ce texte-là, puisque ce texte-là, qui descendra dans l'abîme, en fait, on voit même que dans le texte de Deutéronome, il n'est pas question de l'abîme, il est question de la profondeur des mers. Donc, Paul le cite là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ce verset-là, pas plus que celui de 1 Pierre 3, pour dire que Jésus est descendu en enfer pour prêcher l'évangile à ceux qui étaient déjà morts et qui n'avaient pas cru pendant leur vie. Ça nous amènerait très très loin, ou raccourcirait la pause jusqu'à sa plus simple expression si nous rentrions dans les débats là-dessus, mais en tout cas, c'est ma conviction. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus, sur la croix, dit au brigand repentant, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le corps de Jésus est descendu dans le tombeau, son esprit, de la même manière que l'esprit du brigand repentant, de la même manière que l'esprit de quelqu'un qui meurt n'ayant mis foi en Jésus-Christ, eh bien, va auprès de Dieu. Donc, là-dessus, je pense que faut rester à cette façon de voir, en tout cas, c'est ma position. Donc l'enfer, c'est la destination finale, mais l'enfer, quelque part, il ne sera ouvert qu'à la fin. Le séjour des morts, c'est le séjour où sont les morts, que l'Ancien Testament appelle le Sheol, et que le Nouveau Testament précise en fonction de la façon dont la personne a répondu à l'évangile.
Bien, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va prendre juste un temps de pause et pour poursuivre l'exposé avec Joël tout à l'heure.